Saga Croco, le magazine sur le Nîmes Olympique.
Bonjour, depuis le Stade Jean-Bouin, un spécial
Saga Croco, dans la radio et en podcast.
J'étais sur le banc de touche et je suis rentré à la 63e minute.
Un souvenir d'enfance extraordinaire et gravé à vie.
C'est le match de la montée, c'est le retour du Nîmes Olympique en D1. J'avais 9 ans et c'était vraiment bien.
Un des matchs les plus importants que j'ai vu à Jean-Bouin.
Franchement, quand c'était plein, je peux vous dire que ça poussait fortement et ça nous transcendait. Donc c'était un stade mythique. Quoi.
Souvenir, aujourd'hui 14 juin 1983, Nîmes Tour, direction la D1 dans Saga Croco.
Saga Croco, enregistré depuis les Halles Auberges à Nîmes. Saga Croco, avec nos invités.
Une émission spéciale Saga Croco pour conclure cette saison 2022-2023 avec aujourd'hui un lieu magique, une présence dans un temple. Vous allez sans doute reconnaître le Stade Jean-Bouin. Salut Julien de JuSport 30.
Salut Fred, on va faire un petit retour en arrière de 40 ans. Ça va nous faire du bien. On va laisser les cheveux blancs, on va laisser la barbe qui blanchit, on va revenir avec la grande butte et la petite butte.
Puis surtout, on va faire appel à la Bible du football à Nîmes, Bertrand Bianciotto.
Salut Fred, salut à tous. Ben écoute, ouais, retour dans un lieu mythique avec un joueur qui a marqué ce soir du 14 juin 83, ce fameux match de la montée, puisqu'on a la chance avec nous d'avoir un enfant du club, un enfant même du quartier, parce que je crois qu'il était du chemin bas, monsieur Rémi Fontanelli, qui était dans le groupe et dans l'équipe de la montée.
Il revient avec un micro au Stade Jean-Bouin, c'est pas beau?
Ah si, c'est très beau. Franchement, c'est un lieu qui m'a marqué à vie. Quand on a connu ce stade, quand on a connu cette ambiance, ce club à l'époque, on a hâte de retrouver tout ça, quoi.
Puis la ferveur, il a connu pendant des années, c'est un autre invité de Saga Croco aujourd'hui, c'est Monsieur Football, Jean-Paul Privat.
Salut, je suis content d'être à ton micro pour ressasser ce match que j'ai connu parmi tant d'autres, que j'ai connu aussi qui ont été marquants.
Alors Jean-Paul, on va en parler les amis, parce que bien sûr nous sommes là pour nous rappeler d'il y a 40 ans de ce match qui a emballé la ville de Nîmes, qui nous a fait frémir et qui nous a fait rêver pendant de nombreuses soirées. Nîmes Tour, mais avant de parler de Nîmes Tour dans Saga Croco, on peut parler quand même avec Jean-Paul Privat du Temple Jean-Bouin, parce que avant ce Nîmes Tour, Jean-Paul, il y a eu d'autres matchs, de grands matchs auxquels tu as assisté, toi, l'enfant du quartier, puisque on rappelle quand même que tu habitais non pas à quelques centaines de mètres, mais à quelques mètres du Stade Jean-Bouin.
Oui, j'habitais à côté, là où il y a la piscine du Fenouillet, pendant des années, donc j'ai vécu avec cette ambiance Jean-Bouin, et effectivement, des matchs, j'en ai vu, des matchs qui ont marqué, notamment des matchs dans les années 70, surtout, que ça m'a beaucoup marqué. L'époque des Roumains, de Mézi, ça a été vraiment la grande époque. J'ai même connu, étant petit, des matchs Nîmes-Rens. Nîmes-Rens avait d'un côté les Copa, Fontaine et Piantoni, et de l'autre Akesbi, Skiba, Salabert. Enfin, ça m'a marqué quand même.
Alors, on a quand même fait les choses en grand pour Jean-Paul Privat, Rémi Fontanelli, Bertrand Bianciotto, parce qu'avec Julien, on a eu l'idée de venir ici. Nous y sommes. Nous sommes sur la pelouse synthétique du Stade Jean-Bouin. Alors bien sûr, de venir ici, nous les enfants du Nîmes Olympique, ça nous rappelle toujours quelque chose. Le Stade Jean-Bouin, comme on le disait Bertrand, c'est le temple des Nîmois.
Ah, c'est le temple. On est arrivé, moi j'avais 11 ans le jour de ce fameux match, et puis on est arrivé par le pont du diable, les gens se rappelleront, la route d'Avignon, ça sentait l'odeur de merguez, de saucisses sur les parkings. Tu vois Fred, ce matin c'est comme la Madeleine de Proust, on arrive là et puis on a plein de souvenirs, c'était fabuleux derrière la grande butte, à la mi-temps quand Nîmes attaquait, côté petite butte, on tournait, on faisait le tour, c'était extraordinaire et plein de souvenirs qui reviennent.
Alors Rémi, lui, il était sur la pelouse, qu'est-ce qui était le plus impressionnant pour les joueurs du Nîmes Olympique? C'est de jouer avec la grande butte dans le dos ou face à la grande butte?
Honnêtement, c'était face. Quand on attaquait, comme vous voyez, ce mur, comme on appelait un peu, c'est le mur jaune. À Dortmund, ici, c'était le mur rouge. Franchement, quand c'était plein, je peux vous dire que ça poussait fortement et ça nous transcendait. Donc, c'était un stade mythique, quoi.
Jean-Paul, on n'a qu'à se retourner. On y est, on peut l'imaginer encore, cette grande butte. Là où tu te tenais, c'était ton coin.
Moi, mon coin, c'était la grande butte, côté entrée des joueurs, où on voyait l'ambiance dans le couloir. Et surtout, on n'avait pas cette meute meute de gens qui se poussaient, donc on risquait rien parce qu'il y avait un petit recoin avec le mur, là, on était, c'était bien, ça a toujours été mon coin.
Tu étais où toi, Juju, mon ami Julien, notre ami Julien Testard de JustSport30.com?
Moi j'étais encore un tout petit peu plus jeune que Bertrand, mais j'étais là, en fait moi Jambouin, aujourd'hui ça a changé, mais on sent toujours cette âme-là, Jambouin c'était un rituel. Moi je me rappelle, j'arrivais avec mon papa de la route du Zès, on se garait derrière les militaires, là, le long du mur, on passait passage obligatoire au bar, là, on arrivait là devant...
Alors le bar, jeune homme, il s'appelait Courbier. D'ailleurs, on salue Philippe Courbier, le grand pivot de l'histoire de l'USAM Nîmes. Voilà, après, d'ailleurs, je te propose d'aller manger une merguez.
Et c'était un passage obligatoire avant et après le match. Moi, j'avais la traditionnelle partie de baby-foot pendant que mon père buvait son dernier coup avant de rentrer. Tu parlais du mur jaune, mais c'est vrai que avant le mur jaune, Nîmes a peut-être créé le mur rouge. Ouais.
Moi, Fred, je veux dire aussi quand même quelque chose, c'est qu'à l'époque, les matchs étaient à 20h30. Et puis surtout, on arrivait à 6h30 au stade. Il y avait toujours le lever de rideau, les juniors, la réserve, c'était extraordinaire.
Et toi, Fred, tu étais où alors ce fameux 14 juin?
Les amis, j'ai vécu 3 années formidables dans les populaires. Vous savez où étaient les populaires, hein? C'était tout en haut de la grande butte et j'étais au populaire dernier rang. Et quand vous vous retourniez, vous aviez un précipice derrière vous. Et le soir de ce match, on va en parler avec Rémi Fontanelli, avec Jean-Paul Privat, puis avec vous trois, mes amis. Ce soir de ce match, Nîmes-Tours, j'ai failli tomber 2 fois, 3 fois, 10 fois dans le précipice, mais on s'accrochait, on était tellement heureux, on vivait un événement. D'ailleurs, on va en parler dans Saga Croco de cet événement. Merci d'être avec nous. Un petit clin d'œil à nos partenaires de la saison, Planète Nîmes Olympique, JustSport 30, Radio Système à Vauvert et Delta FM à Aigues-Mortes.
Saga Croco, à retrouver sur canal30.fr et toutes vos plateformes de podcast.
Bertrand, notre historien, avec aujourd'hui Rémi Fontanelli, avec Jean-Paul Privat, avec Jus, il est temps de planter le décor. Saison 82-83, déjà première chose, c'est l'arrivée de Jean Bousquet.
Donc on se remet dans l'époque, Henri Noël s'en va comme entraîneur, donc c'est Pierre Barlaguer qui est promu. Derrière nous avons Jean-Marc Soulas avec la réserve et Jeannot Bandera. Donc ce qui veut dire que Barlaguer, ça va être bien sûr beaucoup les jeunes, on va compter beaucoup sur les jeunes pour essayer de remonter toute une génération qui va éclore, hein. Les Goudard, Pérez commencent déjà à percer, Kuben.
Et c'était le souhait d'ailleurs de Jean Bousquet de s'appuyer sur la formation nîmoise.
Exactement, et puis arrivent des petits jeunes encore plus jeunes derrière, bien sûr Rémi, Fontanelli, je crois qu'il y avait même Dalbar, Galas, Ojoula, voilà. Donc arrive toute une génération de jeunes, et là, il faut encadrer. Qu'est-ce qu'on fait au début de saison? On va chercher, Bousquet dit, on va chercher des joueurs d'expérience. Donc on prend Lionel Justier qui arrive des PSG, et puis arrive surtout, on va prendre un extraordinaire joueur que personne ne connaît, qui arrive des Pays-Bas, qui s'appelle Christen Nygaard.
Arrête-toi Bertrand, mais arrête-toi. Polo, je te dis Christen Nygaard.
Ben un gars qui était capable de faire des passes de 30-40 mètres de l'autre côté du terrain. C'était un joueur qui était exceptionnel, à mon avis. Ça a été un des meilleurs joueurs que j'ai connus à Nîmes Olympique. Hein.
On parle de Christen Nygaard sur la pelouse du Stade Jean-Moi actuellement, Rémi Fontanelli. Christen, le maître à jouer, le maître à regarder jouer.
Absolument. Je confirme, je surconfirme. Moi, j'ai eu la chance de jouer à côté. C'était un gars en plus qui était en or, techniquement qui était exceptionnel. J'ai joué quelques fois sur le côté gauche derrière. Il était juste devant et j'avais Pépé sur le côté. Et je peux vous dire que là, ça a été un régal, quoi. C'était un joueur magnifique. Le plus grand joueur que j'ai vu jouer à Nîmes, en tout cas.
Tu avais son poster aussi, Julien. Christen comme moi, hein. Christen Nygaard.
Avec mon frère, on avait même son maillot. On était arrivé à avoir son maillot, donc oui. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand Rémi parle de Christen Nygaard, il a les yeux qui brillent et les yeux qui pétillent. Et même Fred, tu es en face de moi, toi aussi, t'as les yeux qui brillent.
Non, mais moi, j'ai une anecdote, les gars, ici, en direct du Stade Jean-Moi, avant de redonner le micro à Bertrand. À l'époque, j'essayais de parler anglais. Alors, j'avais une correspondante danoise. Et puis, bien sûr, Christen Nygaard arrive au Nîmes Olympique. Et dans un courrier maladroitement écrit en anglais, j'écris à cette correspondante que à Nîmes Olympique, nous avons Christen Nygaard. Et là, elle m'a fait une page sur la carrière de Christen Nygaard, qui venait, Bertrand, du club AZ67 Alkmaar.
Exactement, il venait de faire la finale de la Coupe d'Europe à l'époque contre Ipswich, des fameux clubs anglais. C'est un joueur fabuleux, et puis Christen, on l'adore, puis on lui fait un coucou. Pied gauche fabuleux, des transversales, comme disait Jean-Paul, de 30 mètres dans les pieds directement sur les ailiers. C'était cette fameuse époque, coup d'envoi, on décale sur le côté, Christian Pérez, Claude Goudard qui déborde, et tête de Patrick Kuben. C'était pour nous les gamins, c'était ça.
C'était les consignes de début de match. Le coach disait, pendant les 10 premières minutes, on met une pression pas possible sur l'adversaire, sur les défenses, on presse partout. on attaque, voilà, c'était ça. On voulait faire la différence rapidement, quoi.
Rémi, c'était le jeu du Nîmes Olympique, tout simplement.
Ouais, c'était le jeu du Nîmes Olympique. Bon, en plus, bon, vous savez très bien, la niaque qu'on a ici, la ferveur qu'il y avait ici. Donc, avec des joueurs comme ça, comme Christine, comme Pépé, comme Juan Herrero au milieu. Après, au Castagnino, effectivement, ça roulait impeccablement, quoi.
Et puis, il y a eu un ailier formidable qui venait de Cologne. Il est resté une saison à Nîmes. Il est arrivé à la bonne saison, 82-83. C'est Roger Van Gol.
Oui, moi, Roger Van Gol, j'avais trouvé qu'il avait fait une saison formidable. Et j'étais presque déçu qu'il s'en aille. Alors, par contre, je pense qu'il n'était pas jeune à l'époque. Roger Van Gol, il devait être en fin de carrière.
Il avait 33 ans.
Mais à mon avis, il aurait pu faire un peu plus parce qu'il était bon quand même. C'était un bon joueur.
Roger Van Gol, Christian Nygaard, on a lu dans la presse à l'époque, en 82-83, que Nîmes avait la meilleure paire d'étrangers du championnat de France de D1 et de D2 réunis, Julien.
En fait, c'était pas deux joueurs qui étaient très connus quand ils sont arrivés à Nîmes. Mais par contre, voilà, ils ont vite marqué le club de leur empreinte et même ce championnat de D2. Et puis, quand t'as deux joueurs comme ça et que t'as à côté de ça, Kuben, Pérez, Goudard, moi, c'est le trio magique que j'ai connu. C'est, voilà, c'était formidable pour Nîmes Olympique. On s'imagine pas aujourd'hui ce que ça représentait.
Pour la petite anecdote, on cherchait donc un attaquant et Roger Van Gol, ça s'est fait très tard, en fait. Ça a été très tardif. Il est arrivé après le début du championnat, même, parce qu'on avait mis à l'essai à l'époque un Hongrois. Ça s'est pas fait avec ce Hongrois et puis finalement, ils sont aller chercher Roger Van Gol qui était âgé, alors on le voulait pas trop parce qu'il avait déjà 33 ans, international belge, il faut dire quand même qu'à Cologne il avait été champion d'Allemagne, il avait fait la finale aussi d'une Coupe d'Europe, alors je sais plus laquelle, mais c'était quand même un joueur qui a marqué, il est resté qu'un an, mais c'était un joueur extraordinaire. Il avait un côté un peu Chris Waddle presque, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il avait, par moments il mettait un peu l'ambiance par rapport au public. Puis derrière, il faut pas oublier quand même qu'on avait un jeune gardien qui poussait aussi, on n'en parle pas, qui s'appelait Gilles Morisseau, qui est devenu quand même un grand gardien de Ligue 1, qu'on pense aussi à Gilles.
Jean-Paul Privat, il y en a eu des grands gardiens au Nîmes Olympique et Gilles Morisseau, il a marqué de son empreinte l'histoire du club.
Il y en a eu, de bons gardiens à Nîmes Olympique. Hein. Il y a eu Morisseau, il y a eu sans compter Luigi Landi.
Richard Ruffier, l'homme à la moustache.
Qui a été international d'ailleurs, Richard Ruffier. C'est quand même à la base le gardien. Hein. Au départ, si on n'a pas un bon gardien, on est mal.
Il s'arrache le micro ce matin, ici au Stade Jean-Bouin. On est dans le rang central, on a la grande butte dans le dos, Julien.
Mais tu parles de Gilles Morisseau et je pense que Rémi va nous le dire mieux, mais c'est vrai, moi j'étais gamin gardien, c'était une de mes idoles. Gilles Morisseau, mais c'est aussi l'homme de ce barrage quand même, parce que le match aller à Tours, si jamais t'as pas Gilles Morisseau, tu fais pas peut-être ce match-là, le 3-1 du 14 juin, sans Gilles Morisseau, il se fait peut-être pas.
Ouais, j'ai une petite anecdote, on avait fait donc le match retour à Reims, on avait gagné 3-1 ici, et on est mené 1-0, et il reste, je rentre une quart d'heure, et sur un centre, je crois que c'est Kiffer qui met une tête, et Gilles fait un arrêt phénoménal, et je pense que c'est ce qui fait qu'on arrive à jouer contre Tours après, quoi.
Le championnat de France 82-83, Bertrand, Rémy, Jean-Paul, Julien, 36 clubs en D2, répartis en deux groupes. Alors Nîmes est dans le groupe A, leader Rennes. Il y a eu un match phénoménal ici au Stade Jean-Bouin, le Nîmes Rennes, tu le disais tout à l'heure, Rémi, avec Bertrand, Rennes arrive invaincu.
Rennes arrive invaincu, on avait perdu là-bas aussi 2-0. Ils arrivent invaincus et nous, ben, on est là, on est derrière. Et puis, il y a ce public qui est toujours là aussi. Et on arrive à les faire déjouer, on leur met un peu le pied. Et puis, voilà, on s'en sort et on les bat logiquement.
J'avais même retrouvé, Rémi, une stat comme quoi Rennes avait, je crois, pas perdu depuis 20 matchs. Ils arrivent à Nîmes avec une équipe super costaud et on fait un match extraordinaire. Et ça, là, ça nous lance complètement sur la fin de saison. Et pour commencer la saison, Fred, il ne faut pas oublier quand même qu'on a attaqué, on va dire, du bon pied, parce qu'on commence par un derby quand même. On reçoit Montpellier la première journée, avec un dénommé Laurent Blanc qui débutait, je crois. Et donc, on gagne 2-0 le derby. Donc, ça lance notre saison quand même. Puis, il y avait quand même de grosses équipes dans cette poule. Il y avait Valenciennes, il y avait quand même le Racing qui avait des ambitions.
On trouvait dans cette division des beaux clubs, Valenciennes, le Racing Paris. Il y avait des beaux derbys. Il y avait Montpellier qui était là, il y avait Béziers qui était pas très loin. Alès qui termine 16e et qui échappe à la relégation pour quelques petits points. Donc c'était une belle division, c'était deux groupes, c'était pas facile à l'époque de monter un D1.
Vous êtes dans l'émission
100% Nîmes Olympique
avec Rémi Fontanelli. Restez avec nous, maintenant on vous amène directement ce 14 juin 1983, match retour des barrages face à une D1, le Nîmes Olympique reçoit Tours.
Saga Croco à écouter en numérique sur les réseaux sociaux de Jusport 30 et Planète Nîmes Olympique.
Rémi, avant de parler de ce match face à Tours, on parle quand même de la confrontation face à Reims, qui était l'autre deuxième de la poule B, et ce fut également un petit peu compliqué pour le Nîmes Olympique, mais l'aventure était en marche.
Ouais, là aussi c'est un match compliqué, joueur avec pleine expérience aussi, avec Harry Barr derrière, Kiefer devant, le Chantre qui était des gars vraiment d'expérience. On arrive vite à mener, on fait comme d'habitude un début de match Tony Truant, ça se complique un peu, ils arrivent à revenir à 2-1 à un moment donné, ils marquent même un but je crois qui est hors jeu, et puis on finit comme d'habitude fort aussi, donc on gagne 3-1 parce que je pense qu'il fallait, parce que le match retour allait être compliqué.
3 buts Herrero, Pérez et Goudard. 10 000 spectateurs à Jambouin, 3-1 pour le Nîmes Olympique avant d'aller à Reims. Et Polo, c'est toujours la magie de Jambouin. 10 000 spectateurs pour pousser le 12e homme des Nîmois.
Effectivement, c'était le 12e homme des Nîmois. On en aurait bien besoin actuellement d'avoir 10 000 personnes. C'est vrai que dans le stade de Jambouin, qui contenait 12 ou 13 000 personnes, et c'était régulier qu'il y avait 10 000 personnes par match. Et c'était chaud.
Bertrand, donc au match retour, petite défaite des Nîmois, mais en route pour la confrontation face à Tours.
Oui, alors on enchaîne donc ce premier match 3-1 à la maison. Au retour là-bas à Reims, on est dominé de la tête et des épaules. Morisseau fait un malheur. On prend un but d'ailleurs à 10 buts de la fin. On tient jusqu'à 80e. Et puis c'est fort à l'amour. Arrive Tours. Tours avec quand même une grosse équipe.
Il faut on y est hein. Mais on y est à Tours. On y est.
Attends, et avant, ça commence quand même, avant le match de Tours, trouver le fameux sésame. Il faut trouver un billet. Il y a 11 000 places. Il va rentrer 13 000 quand même ce soir-là dans le match. Je pense qu'on aurait pu, Jambouin, le remplir 3 fois, 4 fois ce soir-là. Et les gens qui ont trouvé la place pour ce match-là, ils ont eu la chance de vivre ça.
Tout autour de ce micro, hormis Rémi Fontanelli qui était l'une des stars de la soirée, on a tous acheté un billet, Jean-Paul.
J'avais mon billet, je ne sais pas comment, mais j'ai dû l'avoir bonheur, je l'avais, oui.
Et moi, je pense, Bertrand, que j'étais le premier à rentrer dans le stade.
Ouais, ben, on avait, je ne sais pas si on avait des billets, mais à notre âge, bon, nous, on avait la chance, certaines, de connaître des personnes qui étaient au guichet. On connaissait aussi la famille Brunetti. C'est vrai que Pierrot, on pense à lui. C'était un monsieur extraordinaire. Il pouvait faire rentrer aussi des personnes de temps en temps quand il connaissait. Il faut penser surtout à ce match à Tours où on est quand même pas à Reims, on est très dominé et on arrive à arracher quand même un match nul à Tours grâce à Roger Van Gaal. Donc là, derrière, trois jours après, quatre jours après, je crois, ça, on se dit, ça va être la folie à Nîmes.
On en parle de ce match aller à Tours très rapidement. C'était, comme l'a dit Bertrand, c'était fort à l'amour à Reims, mais à Tours, c'était Omaha Beach quand même.
Hein.
C'était rugueux, les mecs. Hein.
Ouais, ils étaient rugueux, ils nous avaient rentré dedans, ils nous avaient fait un gros match, nous on était moins bien. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, c'est que Coiffier, qui joue au mieux, avait blessé Casta, qui n'avait pas pu jouer le match retour. Et on lui avait promis un match retour solide, et c'est ce qu'on a fait.
Il ne faut pas oublier qu'Emco Tour donc, était un D1, et avait quand même devant quand même une attaque extraordinaire, une attaque sud-américaine. Omar Da Fonseca, quand même, qu'on voit tout le monde sur Bein, et surtout le grand Elionis, célèbre Guy Lacombe au milieu terrain, qui a été entraîneur, Jean-Marc Furlan, Jean-Marc Desrousseaux, notre futur gardien aussi, qui a joué à Nîmes, Deville Chabrol, des joueurs Polagnoc, je crois, non, ou des joueurs. Tous ces joueurs-là, c'était quand même une belle équipe, attention, et devant une attaque quand même qui faisait peur. Hein.
Nous sommes au Stade Jambouin, et tiens, on va écouter une publicité du Stade Jambouin.
Un gardien, deux arrières, trois demi, oui, mais trois demi de bière Phoenix, la bière des connaisseurs.
Un petit clin d'œil à Patrick Champ qui n'a pas pu être avec nous ici dans son temple, le Stade Jambouin. Avec Julien qui prend le micro du speaker du Stade Jambouin pour la composition du Nîmes Olympique. Comment il disait le speaker ?
Nîmois, nîmoise, voici votre équipe. Et ça commençait comme ça, Fred.
Et juste après, il y avait Toyota.
Et oui, donc la compo de l'équipe, elle est le traditionnel 4-3-3 de Pierre Barlaguet. Donc Gilles Morisseau, blind quand on en a les barres. Fournier, Lopez, Delédic et Desilia derrière. Herrero, Justier et Christian Nigard au milieu de terrain. Et devant, Pérez, Kuben et Van Gaal sur l'aile.
Déjà, moyenne d'âge de l'équipe, 22 ans et demi. Les anciens, c'est Daniel Delédic, c'est Christian Nigard, c'est Roger Van Gaal. Et puis après, Rémi, excuse-moi, ce sont des gamins, quoi.
On était 7 ou 8 à avoir moins de 22 ans. Claude, Pépé, Juan, Gilles, moi, Alain. Très jeune, on est entouré de vieux lascars comme Daniel, Christian et Roger. Et ça fait une belle amalgame et ça fait que ça réussit. Hein.
Et puis il y a surtout maître Pierre Barlaguet à la baguette aussi.
Bah oui, l'homme du club, hein. C'est la légende du club. Il a été capitaine, joueur, entraîneur, directeur de centre. Pense à lui, c'était un grand monsieur du Nîmes Olympique à la Rouvière, à la Firoude. Voilà, il fait partie de ces hommes-là. C'était un personnage extraordinaire quand on pense qu'en 96, après, il va nous amener à une finale de Coupe de France avec une autre bande de jeunes, une autre époque. Voilà, juste un petit mot aussi pour dire à Rémi, on pense aussi à Abla Mansouri qui avait quand même joué des matchs. Et aussi une pensée pour un joueur que j'aimais bien, moi, qui s'appelait Dominique Chevalier, qui est décédé, comme Daniel Delédic, malheureusement, et Jean-Luc Fournier. On a une pensée aussi pour ces joueurs-là, ces trois joueurs qui sont partis. Et Dominique Chevalier faisait aussi partie de l'équipe, voilà.
On est installé dans la grande butte Jean-Paul, toi tu es près du couloir de l'entrée des joueurs, moi je suis tout à fait en haut dans mon pigeonnier, dans mes populaires, et puis on commence à frémir, parce que le Nîmes Olympique marque dès la première minute.
Voilà, par Nigar, si je me souviens bien, je pense qu'ils en mettent une deuxième à la 18e, c'est par Van Gaal. Bon, on arrive à la mi-temps comme ça, et puis on continue à dominer, mais on prend un but sur contre, but de Danfosseca, on se met un peu la pression, mais bon, ils finissent comme d'habitude en fanfare, pour marquer un troisième but par Goudard.
Par Mobilette, Rémi Fontané. 3 à 1, mais là, la magie était formidable. Vous sentiez sur le terrain ce qui se passait? Vous la voyez là, la D1 dès le mois d'août, 83 qui arrivait.
Ouais, on la voit, parce que à 2-1, bon, on a un petit doute, comme disait notre ami, mais on finit donc, on marque ce but à la fin. Et là, c'est l'explosion, c'est tout ce que tu veux. C'est des gars qui courent partout. On se chambre un peu avec les Tourangeaux, bien sûr, parce qu'on s'est branché un peu avec Coiffier, je te disais, au match aller. Oni se nous crache la gueule, mais bon, on lui montre le score et on lui dit que c'est nous qui allons jouer en première division l'année d'après, quoi.
Rémi, je sais pas si tu te rappelles quand même, on parle de l'ouverture du score, c'est un penalty quand même de Christen. Et je crois que Patrick Huben qui est balancé dans la surface d'entrée. Imaginez l'ambiance, stade plein à craquer. Jean-Paul disait 12 000, mais c'est 16 qu'on a ou 17 qu'on a mis là. Il y en avait sur les pylônes, il y avait partout. D'entrée, au bout d'un quart d'heure, on mène déjà 2-0 grâce à Roger Van Gaal derrière. Après, on se dit, c'est comme dans un rêve, c'est extraordinaire ce qu'on vit.
Non, mais attends, tu vas voir, Bertrand, je vais trop donner le micro, mais avec Julien, on était gamin. Bon, il avait 9 ans, moi j'allais avoir 17 ans et demi. Mais on rêvait sur place. Ouais, mais c'était hallucinant, quoi. Pour nous, gamins.
On rêvait sur place. Rémi, il passe 63 minutes sur le banc de touche avant de rentrer dans le match. Sur le banc, tu le vis comment, toi? Il se passe quoi autour de toi quand tu es là? Est-ce que tu arrives à être concentré sur ce qui se passe sur le terrain ou aussi en tribune?
Pierrot, je veux rentrer. Pierrot, monsieur Barlaguet, je veux rentrer.
Ouais, effectivement. Bon, déjà, on se souvient, quand on arrive une heure ou une heure et demie avant, comme le disait Bertrand, le stade était déjà plein à craquer. Déjà, ça te met, tu te dis là, il va falloir envoyer. Et puis oui, je suis sur le bord, j'attends, je piaille, j'ai envie de jouer. Puis Rouen a quelques petits problèmes, je crois, physiquement. Donc le coach me dit, va te chauffer. Et puis là, je me dis, bon Rémi, il faut tout donner. Tu es chez toi, il y a la famille, il y a les amis.
Il y a Julien et Fred dans les tribunes aussi.
Fred, voilà, rien que pour eux déjà. Et puis là, tu te dis, bon là, il faut tout donner. Il y a 15 000 fous furieux, cette ambiance de dingue. Donc t'es parti.
On y est. En plus, les gars, nous sommes amis auditeurs, amis qui nous écoutent. Écoutez, nous sommes ici un samedi matin au stade Jean Bouin. Et Bertrand, il faut quand même parler d'un acteur de ce match, de ce Nîmes Tour, de ce 3-1 pour le Nîmes Olympique. C'est l'arbitre central, c'est le grand Joël Quignoux.
Oui, Joël Quignoux, qui était le patron un peu des arbitres. Donc moi, j'ai eu la chance en tant que... J'étais un peu de stagiaire l'été quand j'avais passé à la Fédé mes examens. Et je branchais en rigolant, mais chez Joël Quignoux, plusieurs fois, je viens me vous rappeler, monsieur Quignoux, Nîmes Tour. Il me dit, mais tu étais? J'ai dit, oui, j'y étais. Et il me dit, tu veux que je raconte la meilleure de l'anecdote de ce match? C'est que quand Nîmes marque le troisième but, il dit, l'envahissement du terrain, il dit, mais j'ai jamais pu faire finir le match officiellement. C'est-à-dire qu'il restait peut-être 30 secondes, une minute, il me disait, j'ai jamais pu faire finir le match. Il dit, personne n'a jamais rien dit. Il dit, tours sont partis au vestiaire, personne n'a jamais réclamé. Et ça, c'est anecdote que me sortait chaque fois Joël Quignoux, c'était exceptionnel parce qu'en fait Nîmes Tour n'a jamais pu aller au bout de son terme, au bout du temps réglementaire, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, malheureusement, on verrait plus ça, il y aurait des procédures, des appels, c'est en justice, ça irait pour l'actualité aujourd'hui.
Et c'est à noter que on marque deux buts dans les 20 premières minutes, c'était quand même une habitude à Jean Bouin où on prenait les adversaires à la gorge et au bout de 20 minutes, il y avait un ou deux buts. Donc ça c'était quand même ça datait du temps de l'époque de Firoud et ça continuait.
Justement Rémi, c'est comment après dans le couloir et dans les vestiaires?
J'ai des vagues souvenirs, mais je me souviens dans le vestiaire, c'était très chaud. On s'embrassait, on sautait dessus, on se jetait de l'eau. Enfin, c'était euphorique. Il y avait des journalistes de partout. Comme quand tu montes, c'est sûr que là, t'es sur une autre planète, quoi. T'es ailleurs.
En route pour la D1 après cette victoire 3-1 face à toi, Rémi.
Ouais, D1, c'est parti. Sauf que là, bon, ça se complique un petit peu. Il y a quelques recrues, le Blaillot, je crois, Gentes, ouais. Mais on a du mal. On prend les grosses équipes d'entrée chez eux. On prend quelques belles fessées avec des équipes comme Bordeaux ou Nantes.
Il y a eu un 5-1 à Monaco, un 7-3 à Metz. Hein.
Ouais, à la fin, un dernier match de la saison, mais là, bon, on était déjà cuit. Mais en début de saison, on joue à Bordeaux. Bordeaux, on joue à Nantes, comme je te disais. On joue les Giresse, les Girards, les Beaucis à Nantes et on prend des fessées. Et on a une équipe un peu jeune et je crois que malgré l'expérience de quelques vieux lascars aussi, on n'arrive pas à s'en sortir et on redescend malheureusement.
La passerelle entre la D2 et la D1 était compliquée puisque cette année-là, quand Nîmes monte, c'est Rennes qui monte aussi en étant premier de D2 et qui fait l'ascenseur avec Nîmes dès la saison suivante. Nîmes finit 19e et Rennes finit 20e.
Et c'est Saint-Etienne qui joue les barrages.
Après, le recrutement de l'intersaison d'après n'a pas été à la hauteur. On prend Surlit, le Polonais, qui a déçu, qui n'était pas encore dans le rythme. Rémi Gentès, c'est le seul attaquant qu'on recrute. Voilà, le recrutement n'a pas été à la hauteur. Il aurait fallu recruter plusieurs joueurs, je pense. Et on n'avait pas peut-être les moyens à cette époque-là, malheureusement. Et c'est ce qui nous a un peu coûté.
Une page de l'histoire du Nîmes Olympique, une page de l'histoire des crocodiles. Ce matin, ici, au Stade Jean-Bouin, on avait la petite butte, la grande butte, et puis on imaginait aussi la tribune de presse en tôle et en bois, où il s'est passé tellement de choses, et où j'ai eu l'honneur, l'avantage et le plaisir de commenter plusieurs matchs du Nîmes Olympique, mais ça, c'est une autre histoire. Merci mes amis, merci d'être venus au micro de Saga Croco, et surtout à notre invité, Rémi Fontanelli, qui est venu avec son maillot aujourd'hui. Avec son maillot, c'était Kindy Chaussette.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je voulais avoir juste une pensée pour certains dirigeants et certains entraîneurs de ce club. Ils se reconnaîtront. Laissez-moi deux secondes. Monsieur Deprêtre, Monsieur Baron, Monsieur Bayle, Monsieur Roustan, Monsieur Rochette, Monsieur Vaillant, Monsieur Salavert, Monsieur Viala, Monsieur Bandera, bien sûr, Monsieur Noël et Monsieur Barlaguet. Une pensée pour Pierrot Brunetti, pour Daniel Delédic, bien sûr, avec Jean-Luc Fournier et Dominique Chevalier. Et une pour mes parents qui sont plus là maintenant non plus, mais qui étaient là dans la tribune. Et je peux vous dire qu'ils étaient fiers.
Et on fait un gros bisou, bien sûr, à Patrick, qui normalement est avec nous. Et je remercie Nicolas Rainville, qui nous a permis ce matin d'être ici sur le stade Jean-Bouin. Et c'est très sympa de sa part.
Et une nouvelle fois, j'appelle Jean-Paul Privat pour parler du Nîmes Olympique. Il me dit, je suis frais, dispo et prêt. Et je serai avec vous, mes amis. Merci Jean-Paul.
Merci pour toujours un régal de venir.
Les aventures de Saga Croco sont à suivre à partir du week-end du 15 août pour les nouvelles aventures du Nîmes Olympique en national. Merci messieurs et puis surtout depuis le Stade Jean-Bouin.
Allez Nîmes !
C'est beau le Stade Jean-Bouin.
Oui,
c'est les vacances.
Saga Croco, votre magazine sur le Nîmes Olympique avec interviews, chroniques, nos invités et 85 ans de souvenirs.